Bonjour et bienvenue sur Radio Rondaine. Nous sommes un groupe d'élèves de seconde C du lycée Jacob Holzer. Adélaïde, Saïd, Alexis, Caïs et moi-même, Amine.
Nous sommes là aujourd'hui pour interviewer l'auteur Romain Baudy dans le cadre d'un projet lecture, Délire d'ado d'Ondaine, qui associe les collèges et les lycées du bassin de l'Ondaine. Et avant tout, bonjour monsieur Baudy.
Bonjour, bonjour à tous.
Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours ?
Oui, alors mon parcours, si on remonte vraiment au scolaire, donc un cursus tout à fait général, un bac littéraire, avec déjà j'étais orienté sur le dessin, c'est un cursus à réappliquer qui m'a pas appris énormément de choses techniquement, mais ça m'a permis d'avoir des professeurs qui m'ont confirmé que l'orientation graphique avait des débouchés. C'était pas évident, je suis originaire, il faut le préciser, d'une région assez rurale, je viens du Cantal, donc j'ai pas dans mon enfance rencontré d'auteurs. J'étais assez éloigné de ça, j'avais l'impression que c'était très, très, très loin géographiquement, mais même d'un point de vue personnel, accéder à des métiers comme ça, j'avais du mal à imaginer que ça existait. Donc ces professeurs m'ont permis de m'orienter vers cela. J'ai suivi un parcours plus professionnalisant sur les arts appliqués, donc ce qu'on appelle la communication visuelle, la publicité, le design. Et à la suite de ces études, j'ai fini par arriver sur Paris, où j'ai trouvé une formation beaucoup plus professionnalisante encore pour le dessin type dessin d'univers, dessin de personnages. J'ai fait l'école d'animation des Gobelins, donc c'était une école assez connue en France et dans le monde, pour un métier qui est très très différent et très proche en même temps de la bande dessinée, qui est le dessin animé. Donc j'ai fait mes premières armes dans les studios de dessin animé, tout en faisant ma première bande dessinée avec un camarade d'école, en se disant qu'à deux on pouvait arriver au bout des projets. Ça s'est confirmé, et puis chacun d'entre nous a continué de bosser dans l'animation et fait de la BD à côté. Voilà à peu près mon parcours.
Comment vous considérez-vous comme un auteur, un illustrateur ou un écrivain ?
Alors, je me considère comme un auteur dans la mesure où j'écris, jusque-là j'ai écrit la plupart des histoires que j'ai dessinées. Je me considère également comme un technicien parce que j'ai bossé dans des studios d'animation sur les projets d'autres gens, d'autres auteurs, et que j'estime qu'un livre, une bande dessinée, c'est une œuvre, mais c'est également aussi un bien de divertissement, c'est un objet de divertissement et un bien de consommation. Ça s'achète, ça se trouve dans des points de vente, c'est fabriqué sur des chaînes industrielles. Donc je me considère comme un auteur, mais quand j'entends auteur, c'est un auteur au service aussi d'une industrie. Donc je n'ai pas uniquement la prétention d'artiste, je sais aussi que c'est un bien qu'il faut vendre, il faut s'adresser à un public. Donc parfois on est tout public, parfois on est sur des publics très très ciblés, et je défends cette réflexion-là pour le statut d'auteur.
Quel est le titre de votre premier livre ?
Mon premier livre s'appelle Pacifique. Pour vous le décrire, c'est une histoire dans un registre assez proche de celle que je présente aujourd'hui, Souterrain. C'est une histoire fantastique dans un cadre historique. Alors, à la différence, je ne suis pas dans le cadre industriel de la mine, je suis dans le cadre de la guerre. J'ai toujours un rapport avec les machines. Donc ma première histoire pacifique se déroule dans un sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour Souterrain, nous sommes dans la mine, donc avec les machines de la mine. Donc j'ai cette espèce de fil rouge. Quand j'écris, le projet actuel sur lequel je travaille en collaboration avec un scénariste, donc j'ai pas la main sur l'univers. Moi, je me suis mis en accord avec lui, mais je suis sur un genre plus, on est plus dans la science-fiction, donc on a des machines, mais c'est moins le sujet de fond de nos histoires. Mais sur les prochains projets sur lesquels je serai scénariste, je serai tout seul, scénariste-dessinateur, je reviens à ces choses-là. C'est quelque chose d'assez obsédant, on va dire, le rapport de l'homme et de la machine.
Combien d'albums de BD avez-vous réalisé jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, à l'heure actuelle, paru deux. Uniquement sur une période assez longue, on a lancé notre premier projet, donc avec Martin Tristram pour Pacifique, en 2017 à notre sortie d'école. Le temps de fabrication était très très long compte tenu du fait qu'on était tous les deux employés à plein temps dans des studios d'animation, donc ça se faisait le soir à distance parce que j'ai fini par être résident sur Lille et lui sur Paris, donc c'était assez complexe, assez fatigant parce que travailler à plein temps dans une activité créative, ça vous demande beaucoup. rentrer le soir et retravailler encore, c'est très très dur. Très très dur aussi pour la vie personnelle, parce que quand on vit tout seul, c'est quelque chose. Quand on vit avec quelqu'un, c'est dur à partager. Et donc du coup, quand on est jeune auteur, on donne beaucoup, beaucoup, et ça peut fatiguer, et ça peut même vite être assez critique. J'ai beaucoup de connaissances dans le milieu de la bande dessinée qui en ont fait les frais, et je reste un auteur assez lent parce que je ne priorise pas uniquement cette activité dans ma vie. Et je trouve ça assez important d'en parler. C'est bien de poser la question.
Quel est votre livre qui a rapporté plus de succès ?
C'est très très relatif. C'est très très relatif. Aujourd'hui, dans la bande dessinée, on médiatise des livres qui sont tirés à 100 000, à 300 000 exemplaires. On parle de choses comme ça. C'est très très loin de la réalité pour l'ensemble des auteurs. Le volume des livres pour le gros des auteurs bande dessinée aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont à quelques milliers. On n'est pas à des dizaines de milliers. Et c'est malheureusement les cas exceptionnels de très très gros succès qu'on met en avant. Moi, mes livres, je suis à des tirages de moins de 10 000. Je suis mon premier, j'ai été tiré à 7 000. Le deuxième, je suis entre 5 000 et 6 000. Le tirage, c'est un terme qui est très relatif, parce que vous pouvez tirer à 100 000 et n'en vendre que quelques milliers parce que c'est un flop. Et vous pouvez également être tiré à très très peu d'exemplaires, que ce soit un succès, et l'éditeur derrière essaye de réagir très vite en retirant. Donc aujourd'hui, je suis à des tirages de, on va dire, les ventes pour mon premier, sur un tirage de 7000, on était sur des ventes à 5000, 6000. Faut expliquer aussi qu'on parle en termes de tirage, mais le tirage, vous pouvez enlever énormément de choses, parce qu'il y a des livres qui sont abîmés pendant le transport, parfois même à la fabrication. Ces livres-là ne peuvent pas être vendus. Donc un tirage, c'est un chiffre, mais la réalité de la vente, on peut expliquer qu'un livre est vendu moins que le tirage, parce qu'en fait, il y a des livres qui ne pouvaient pas être vendus, tout simplement. Les exemplaires presse, il y a énormément d'albums qui sont distribués aux autres auteurs de la même maison d'édition. Moi, par exemple, chez Casterman, je peux demander des exemplaires, on va dire, de Tintin, sous le prétexte que dans cette maison d'édition, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale, à savoir la cohérence de l'ensemble de ces œuvres par rapport au nom de la maison d'édition. Et donc, du coup, c'est à titre de documentation qu'on prend ces ouvrages-là pour s'y référer, pour essayer de respecter cette ligne éditoriale-là. Quelque chose de... Pour le contexte relation auteur-éditeur, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez discutable aussi. Mais bon, c'est une question un peu qui peut demander de longues heures. Donc voilà, mes meilleures ventes à l'heure d'aujourd'hui, étonnamment, c'est le temps aussi des ventes aussi. Parce que je suis toujours en train de défendre mon deuxième album. Aujourd'hui, il est toujours à la vente. Le premier a fini d'être vendu. On a épuisé le stock et l'éditeur n'a pas souhaité le rééditer, alors qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle le pilon de stock. Quand un album ne se vend pas, on détruit le stock parce que ça coûte cher de stocker, ce qu'on appelle le pilon sur stock. Il y a également le pilon des albums défraîchis, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les albums qu'on ne peut pas vendre parce qu'ils ont été abîmés. Et donc aujourd'hui, mon livre le mieux vendu, pour répondre finalement, enfin à votre question, mon livre le mieux vendu, c'est Souterrain, le dernier, puisque en un an et demi, on a épuisé le stock des livres qui sont vendables. Il en reste moins d'une centaine aujourd'hui, alors que le précédent a mis 5 ans à épuiser 5000 titres. Il s'est mieux vendu sur le volume, mais au niveau de du temps, aujourd'hui, sur les 2 ans de vie du livre, à 2 ans, mon deuxième livre fait un meilleur score que le premier. Voilà. Réponse très longue à une question très simple.
Ne faites-vous que des BD ou travaillez-vous dans d'autres domaines graphiques ?
Alors, je l'ai déjà évoqué, effectivement, je travaille aussi dans le dessin animé. J'ai pas encore eu l'occasion de travailler... Enfin, je l'ai eu au sein de l'entreprise pour laquelle j'ai officié dernièrement. Et c'était une entreprise qui s'appelle Ankama, qui est une structure assez particulière parce qu'elle contient un studio d'animation. Elle contenait, s'il n'existe plus, il sous-traite maintenant. Elle contenait un studio de jeux vidéo. Elle contenait une boîte de développement jeux de plateau, jeux de société, une boîte d'édition. Donc Ankama, c'est aussi une grosse maison d'édition. Donc j'ai officié en tant qu'illustrateur pour des produits dérivés des séries d'animation sur lesquelles je travaillais. Donc j'ai travaillé sur les séries animées Wakfu, sur le film Dofus. Donc des produits qui sont très très en lien avec le jeu vidéo. La série animée était elle-même un produit dérivé du jeu vidéo. Et j'ai travaillé donc sur les packagings d'objets, de jeux, de livres, Alors c'est très très épisodique, c'est des petites commandes, c'est très très discret. Mais je n'ai pas travaillé en tant qu'illustrateur sur des projets non reliés à ça. J'ai, en dessin animé, donc j'ai officié sur le long métrage des Lascar, sur les productions Ankama principalement. Quand je suis rentré chez Ankama, j'y ai passé quand même 4-5 ans. Donc j'ai un long cursus relié à Ankama, et puis j'ai un affect assez particulier avec cette société-là, parce que c'est une société qui appartient toujours à ses fondateurs, et l'envie créatrice des fondateurs est toujours là, et même si la vie économique est assez contrastée dans cette boîte, elle a ouvert beaucoup de choses, elle en a fermé beaucoup d'autres, il y a des échecs, tout est toujours motivé par une vraie volonté de créer, de faire des projets qui leur tiennent à cœur avant le besoin d'argent, et ça je défends tout en critiquant. C'est délicat d'aborder ce sujet-là, mais j'ai des critiques à formuler, mais en même temps, je défends toujours cette boîte. J'ai beaucoup d'amour pour cette boîte.
Parlons plus précisément de Souterrain, car c'est à travers cette BD que nous avons découvert.
Comment vous est venue l'idée d'écrire ce récit, et puis une question sur un point qui nous a un peu tous intrigués. Pourquoi l'avoir fait basculer dans le fantastique ?
La genèse de cette histoire, elle est un peu complexe, et moi, quand j'écris, j'utilise une métaphore, c'est celle de la boule de neige, c'est qu'on fait rouler une idée, et en fait cette idée elle vient s'accumuler avec tous les éléments qu'elle trouve sur sa route, elle en laisse certains sur le passage. J'avais envie tout d'abord d'écrire une histoire autour d'un robot. Donc c'est quelque chose que j'adore, les machines, j'adore les robots, donc ça c'est mes goûts. Quand j'ai commencé à travailler dans l'optique d'un projet autour d'un robot, on commence à essayer de décortiquer qu'est-ce que ça génère comme thématique un robot. Donc le robot, il vient souvent au milieu d'un monde d'humains qui le crée, donc rapport de l'homme et du robot, le robot est une machine, donc l'homme et la machine, en dehors même du robot, les machines, quel est le rapport de l'homme et des machines, donc on en vient vite au monde de l'industrie, de la mécanisation, on dégage des thématiques comme ça. Il se trouve que je vivais à Lille, donc je travaillais chez Ankama à l'époque, dans le nord de la France, donc à Roubaix. J'ai découvert, étant issu de monde rural, moi je découvrais vraiment un bassin industriel, donc la mine, les manufactures textiles. Donc dans mon parcours scolaire, on a forcément abordé les phases de lutte sociale qui ont été très très présentes dans ces bassins-là. Donc viennent s'agglomérer les notions sociales de lutte sociale qui, indépendamment d'une idée de robot, vous avez la mécanisation, l'homme et la machine, le remplacement de l'homme par la machine. Le robot, lui, il apporte quelque chose de nouveau. C'est souvent c'est le rapport à l'autre. Donc l'intelligence artificielle, si l'intelligence artificielle existait pleinement, donc quel droit on donne à un être artificiel ? En corollaire, on se retrouve avec le rapport de l'homme à l'inconnu, donc la xénophobie, le racisme. On retombe encore aussi une deuxième fois dans l'histoire de la mine avec l'immigration, les phases d'immigration de la mine, où on voit à différentes époques, l'époque des Polonais qui venaient travailler dans les mines du Nord, puis après les Italiens, puis après les Maghrébins sur les dernières années. Et ça nous permet de, en filigrane, hein, c'est toujours, moi ma prérogative c'est de donner à lire une aventure. En filigrane derrière, on a un sous-texte qui évoque ces choses-là. Bon, ma prérogative, c'est pas de les traiter, c'est de les évoquer. Si les gens le voient, c'est intéressant, ils vont peut-être aller gratter, chercher, c'est ouvrir une porte. Moi, au travers d'une œuvre de fiction et d'un divertissement, d'un plaisir de lecture, j'ai envie d'ouvrir des portes, mais sans m'apesantir à les traiter. Pour moi, le lecteur intéressé ira les chercher lui-même derrière.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre façon de travailler ?
Donc c'est un effet boule de neige, on décortique, on va chercher des thématiques, on va se renseigner, on va se renseigner sur la mine, on va se renseigner sur les robots, on va faire des recherches d'images. Ces recherches d'images vont vous amener parfois à des éléments historiques qui vont nourrir votre propos dans ce que vous voulez raconter, soit l'aventure que vous voulez faire se dérouler, soit les thèmes que vous voulez évoquer, donc en sous-texte. Parfois, c'est des œuvres de fiction qui vont vous nourrir. Donc, bon, toute la partie fantastique, je vais peut-être revenir un petit peu sur cette curiosité que vous aviez évoquée sur le pourquoi un monde fantastique. Le monde fantastique, c'est ce qui me permettait aussi de faire dérouler, en termes d'action, quelque chose de beaucoup plus divertissant. C'était aussi le moyen de créer un monde un monde fantastique qui était une sorte de miroir, en fait, un miroir, une métaphore, une allégorie de la structure industrielle, du patron qui emploie des mineurs qui sont très nombreux, qui sont très forts dans le fait qu'ils maîtrisent l'outil de travail, c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui construisent, et ils sont tous à la merci de quelqu'un qui leur sert un discours paternaliste. C'est des questionnements qui sont très très dans la lutte sociale. On est dans la thématique de la lutte sociale très très fort. C'est ce monde fantastique me permettait de donner une image très caricaturale, mais et en même temps me permettait un champ d'action très libre pour cette histoire. Je sais pas. J'ai répondu à la question précédente en même temps que.
Est-ce que vous commencez à dessiner un peu en écrivant votre scénario ?
Alors oui. Oui, et c'est pas forcément toujours une bonne chose, parce que autant le dessin peut vous nourrir pour l'écriture, autant quand vous avez fait des dessins qui vous plaisent, mais que votre écriture vous amène sur des terrains qui sont vachement intéressants, mais qui ne nécessitent plus certains éléments, par exemple... Vous vous apercevez que votre œuvre, elle va très vite aller sur le terrain des luttes sociales. Vous apercevez qu'en fait, vous allez très vite. Moi, par exemple, sur l'histoire, voilà, j'avais des personnages qui sont des ouvriers. J'ai la lutte sociale, j'ai le dialogue. J'avais cet intérêt sur le dialogue de l'ouvrier qui veut seulement bien faire son travail en se disant que ça suffira, et l'ouvrier qui sait que c'est une lutte, qu'il y a bien faire son travail, mais que ça ne suffit pas, qu'il faut aussi défendre ses droits. Il faut être conscient que les prérogatives de son patron ne sont pas les siennes, et il faut dans la lutte. Donc j'avais ce discours-là, et ce discours-là m'a fait quitter quelque chose qui graphiquement me faisait très très envie. C'était l'architecture des villes industrielles, à savoir vous avez l'industrie, le lieu de travail, vous avez la mine, l'architecture de la mine, et vous avez l'architecture des ouvriers qui est intéressante, mais il y a l'architecture aussi des maisons des patrons, des maisons des ingénieurs. Et malheureusement, moi, mes besoins de narration et de thématique ne me faisait traverser que le coron, la ville du mineur, des ouvriers, et le lieu du travail. Donc je n'ai pas pu aborder l'architecture de la maison du patron, de la maison des ingénieurs, parce que mon action ne passait pas au travers de leur lieu, et mon dessin n'a pas pu trouver sa place. Enfin, j'avais des envies de dessin qui n'ont pas pu trouver leur place dans l'histoire pour ça, par exemple. Donc il faut faire attention à ne pas être trop engagé parce qu'on a dessiné des choses et qu'on veut les mettre, mais elles ne desservent pas le propos. Parfois, il vaut peut-être mieux pas dessiner pour pas être obligé de faire le choix d'abandonner des choses qu'on a déjà dessinées.
Et qu'est-ce qui vous vient en premier ? Les images ou les scénarios ?
Alors, comme moi, mon premier moteur depuis l'enfance, ça a été le dessin avant de vouloir raconter des histoires. C'est l'image. Je pense d'abord à raconter des images. J'ai des envies de personnages, des envies de lieux, des envies d'action. Les thématiques, elles viennent après. Mais en venant dans un second temps, ça n'en fait pas des choses moins lourdes. Elles peuvent devenir prioritaires par rapport au dessin. Et c'est pourquoi votre question précédente est complètement reliée à celle-là. C'est que on a envie de dessiner des choses, mais il faut parfois se retenir de les faire tant qu'on n'a pas l'histoire et qu'on ne sait pas quelles sont les choses très importantes.
Comment créez-vous vos personnages ?
On va rester toujours dans le fil des questions précédentes. On crée des histoires, on a des personnages comme, par exemple, le robot dans mon histoire, c'est un personnage à part entière. Il est venu avant parce que j'avais envie d'écrire sur un robot. J'avais déjà ce que j'appellerais ce design de personnage qui traînait dans mes cartons. Pour les personnages humains, eux, ils sont venus avec l'apparition de l'histoire. Les thématiques se posent avant. Quand l'histoire commence à se structurer, le squelette de l'histoire, le fil narratif arrive, on commence à poser des... Ces personnages, c'est un peu comme Tintin, c'est des personnages qui sont là pour mener le lecteur au travers des lieux et de l'action. Et le lecteur, quelque part, doit rentrer dans ces personnages. Ils doivent être assez simples pour que le personnage s'identifie, le lecteur s'identifie, je mélange un peu mes mots. Et eux, ces personnages-là sont vraiment venus dans un second temps. Mes créatures fantastiques, par exemple, sont venues presque avant aussi. Elles sont venues entre le robot et les personnages des mineurs, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à créer mon histoire, j'ai eu besoin d'avoir ce monde fantastique en miroir du monde de la mine. J'ai commencé à créer ces créatures, et ces créatures sont des personnages, mais elles sont presque du décor, parce que, à part un ou deux peut-être dans les nains, mais par exemple dans mes créatures fantastiques, mes espèces de gros trolls, il n'y en a aucun qui ressort du lot plus qu'un autre. C'est des éléments de l'histoire, c'est pas vraiment des personnages, ils ont pas de nom, ils sont pas identifiables l'un par rapport à l'autre. Et mes personnages donc centraux, c'est les derniers arrivés, bizarrement. mes Lucien, mes Henri, mes mineurs, Mathusalem, les Polak, tout ça, ils sont vraiment arrivés dans un second temps. C'est assez particulier en fonction de... Dans l'histoire, certains personnages n'arrivent pas en même temps que d'autres.
Combien de temps passez-vous sur une réalisation d'une BD ?
Question très intéressante, parce qu'il faut la décortiquer. Alors, en tant que dessinateur, dessiner les planches, moi, ça a représenté 2 ans à 2 ans et demi de travail. Mais le projet est beaucoup plus long, parce qu'il faut monter un dossier, il faut trouver un éditeur. Donc, le temps de création du dossier, par exemple, a représenté 3 à 4 mois de travail. Sur l'ensemble du projet, arrive un temps très frustrant et très très long, qui est le temps d'attente. Vous envoyez votre dossier, vous attendez des retours. Quand vous avez de la chance, parce que parfois les éditeurs ne sont pas intéressés, puis ils n'ont pas la politesse de vous dire non, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous pouvez attendre très longtemps des éditeurs qui semblent intéressés, puis qui ne vous répondent pas qu'en fait, non, ils ne vont pas le faire. Quand un éditeur est enfin intéressé, il faut négocier. Il faut signer le contrat éditorial. Contrat éditorial, c'est le truc pas très drôle qui va conditionner que vous faites cet album, que vous le faites pas, et comment vous allez le faire. Parce que si ce contrat est bien négocié, que c'est très intéressant pour vous, que c'est confortable, vous allez pouvoir donner tout le temps nécessaire à cet album. Vous allez pouvoir lui donner le temps de fabrication, la forme, l'ampleur de vos ambitions. Et puis si jamais vous acceptez un contrat qui est mal payé, que vous essayez de vous en sortir malgré tout parce que vous n'avez pas le choix, vous allez être obligé de travailler plus vite, de faire des concessions. Et vous allez avoir la frustration de ne pas pouvoir donner la place, l'envergure à l'œuvre que vous lui aviez, pour laquelle vous ambitionniez au départ. Donc ce temps-là est très long, vous avez des contrats qu'il faut rediscuter, renvoyer, et ça pour moi, ça représente un an d'attente quand même. Il y a un an de négociation avant de commencer les planches. Après, dans un dernier temps, vous avez encore l'accompagnement, vous livrez des planches, il y a ce qu'on appelle le maquettage, la mise en forme du livre, la couverture, comment on pose le titre, tous les crédits, toutes les petites choses, les codes-barres, tout ça. Et ça demande quelques mois d'attente, et ensuite il y a le dernier temps, le temps de la promotion. C'est un temps qu'on évoque rarement parce que l'œuvre est faite, mais c'est aussi la vie du livre. On va défendre le livre, et moi, pour Souterrain, ça fait 1 an et demi que le livre est sorti, que je le défends. Et il faut, pendant ce temps-là, lancer des nouvelles œuvres.
Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps, la partie écriture ou la partie dessin ?
C'est la partie dessin. C'est la partie dessin. La partie écriture demande du temps et elle est toujours présente pendant le dessin parce qu'on peut toujours remanier quelque chose. C'est assez frustrant aussi parce qu'on a plein de nouvelles idées qui arrivent, surtout quand on est le scénariste de son dessin. Ce qui n'est pas toujours le cas. Là, actuellement, je suis sur un projet où je travaille avec un scénariste, mais pour Souterrain, je suis le scénariste et le dessinateur et je suis tout seul. Ce qui est très dur parce qu'on a plein de nouvelles idées. Personne ne peut nous en empêcher, presque. Il n'y a que le planning, la chronologie et notre éditeur à la limite qui peut nous dire non, t'as pas le temps fait, il faut que tu avances. Donc on est obligé de se censurer, on a plein de nouvelles idées, on ne peut pas remettre tout sur la table de travail, c'est assez frustrant. On peut remanier quelques petites choses, des dialogues, enlever des éléments, on peut enlever, c'est frustrant d'enlever. Hein. Parce que parfois c'est pour le bien du projet, mais c'est parfois aussi pour des questions de temps. Donc le plus long, c'est le dessin.
Où écrivez-vous ? À quel moment de la journée ? Combien d'heures consacrez-vous à votre travail dans une journée ?
Alors c'est particulier parce que ça dépend des projets, puisque au fur et à mesure de la carrière, on ne fait pas les projets de la même façon. Mon premier projet, je l'ai co-écrit avec quelqu'un, donc les conditions n'étaient pas du tout les mêmes. Là, je travaille avec un scénariste, donc je n'écris pas à proprement parler, même si je dois retravailler sur le scénario avant le dessin. Je dois retravailler pour savoir quelle partie du scénario s'attache à telle planche. Donc j'ai un travail de redécoupage à faire. Quand je suis scénariste de mon projet, comme sur Souterrain, je travaille le scénario en amont. Pour monter le dossier, le scénario est construit. J'affine mes dialogues après. Je travaillais sur Souterrain, je faisais une planche par semaine. Je travaillais le storyboard le lundi avec ce petit travail de réécriture des dialogues, de rééquilibrage de la matière scénaristique. Ça me prenait une journée. Alors forcément, dans l'ordre étant que je retravaillais le scénario le matin tout en commençant ce qu'on appelle le storyboard, donc le découpage, et l'après-midi, et j'essayais de tout finir le lundi. Aujourd'hui, je travaille différemment parce que j'essaye de préparer mes prochains projets scénaristiques en même temps que j'ai un projet d'écriture seulement de dessin où je travaille avec un scénariste. Donc je fais mariner des choses dans ma tête et j'ai pas un temps spécifique affilié à ça. C'est quand j'ai des idées, je les note dans un coin. Quand j'ai des petits trous de travail, je vais faire des recherches là-dessus. C'est très très aléatoire. Le travail créatif est un travail où il y a des jours où on a plus envie que d'autres, on a des fulgurances, donc c'est très très chaotique. C'est dur à expliquer, mais chaque auteur est différent, il faut préciser ça.
Nous allons un peu parler de votre métier. Pour vous, c'est plus un métier ou une passion ?
Alors, question intéressante. Beaucoup d'auteurs ont des discours très très différents. Moi, je viens d'une formation qui est très très professionnelle, celle du dessin animé. Ce qui fait que quand je suis arrivé dans le monde de la bande dessinée, enfin, j'ai toujours rêvé de faire de la bande dessinée, mais j'ai eu un positionnement assez clair. Moi, je préfère évacuer le terme d'artiste parce que c'est pour moi c'est assez évident, on fait un contenu culturel, la BD c'est un médium culturel, mais c'est avant tout aussi un objet de production. On fait travailler des imprimeurs, on fait travailler des gens qui vont faire la publicité de nos œuvres, on va faire travailler des revendeurs, on va faire travailler des diffuseurs qui vont transporter nos livres, diffuseurs, distributeurs. Donc en fait on est une industrie, on est vraiment une industrie, et avant d'être des artistes, on est nous sommes des auteurs et des techniciens quelque part. Donc moi je me définis comme un auteur artiste, mais c'est très très dur. J'arrive pas à dissocier. Je suis au service d'une industrie, donc je fais avant tout un bien qui doit être lu par d'autres, divertir d'autres gens. Je me mets aussi à leur place, à la place de mon éditeur qui doit vendre mon livre, donc je ne peux pas me permettre de faire des livres qui ont des formes qui ne tiennent pas dans un rayonnage, qui sont difficiles à lire. Donc je suis un artiste et un technicien à la fois. Il faut savoir, alors je fais une petite parenthèse, un petit parallèle avec le dessin animé, c'est que la BD déploie des savoir-faire très nombreux, où dans le monde du dessin animé, on ne nous en demande qu'un seul. J'entends par là, en dessin animé, vous pouvez avoir un poste qui n'est que faire des décors, qui n'est que faire du storyboard, qui n'est que faire créer des personnages, qui n'est que écrire des histoires, scénariste, j'entends par là, ou que animer, ou que mettre en couleur. Quand vous faites de la bande dessinée, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon parce que ça bouge pas, mais il faut faire des décors, il faut créer des personnages, il faut écrire des histoires. En fait, on développe tous ces savoir-faire en un seul, et tous ces savoir-faire, on peut pas le nier, sont des savoir-faire techniques, et donc on applique des savoir-faire de techniciens qui n'ont pas tout à fait les mêmes prérogatives, mais malgré tout, les parallèles sont très très forts. Et donc on est sur une œuvre littéraire, une œuvre culturelle. Le dessin animé en est une tout autant, et personne ne nie le fait que les dessinateurs sont des techniciens, tout autant peut-être que des artistes. Donc je suis un artiste, auteur, technicien. C'est comme ça que je me définis, pour faire simple.
Avez-vous d'autres passions que l'écriture ?
Oui, j'en ai plein. J'adore tout simplement, j'adore la randonnée. J'adore le cinéma. La lecture. J'y donne pas autant de temps que je voudrais, malheureusement, mais le cinéma, enfin toute la création culturelle de divertissement. Moi, je tiens vraiment à défendre le divertissement et la culture, parce que moi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc tout ce qu'on appellerait la pop culture, ça me parle beaucoup. Et j'ai aussi une passion un peu qui n'est pas relié du tout, mais je travaille un peu le bois. J'aime beaucoup ça. J'ai besoin, en fait, ça se justifie dans le sens où le dessin, ça n'est jamais que la représentation virtuelle de choses, d'univers, d'actions, et le bois, ça donne un côté tangible, réel à la création. Ça permet de faire des choses qui existent en vrai et qui ne sont pas simplement la représentation virtuelle sur un papier ou sur un écran. Et ça m'apporte cette satisfaction de me dire que les choses, elles existent vraiment au-delà de mon acte de création.
Une question que nous nous posons tous, est-ce que votre activité vous permet d'avoir un revenu correct, ou êtes-vous obligé d'en avoir un parallèle ou une activité professionnelle ?
Alors le début de votre question, c'est donc non, j'en vis pas du tout. Et la fin de votre question, c'est oui, j'ai une activité à côté qui me permet de trouver une source de revenus. C'est donc l'animation. Ce qui est très très bien pour le moral, parce que ça permet de ne pas commencer à se dire j'arrive pas à vivre de mon dessin, peut-être que finalement le dessin ça mérite pas grand chose. Non, c'est complètement faux. Le dessin c'est quelque chose qui est un savoir-faire qui est très très bien rémunéré, qui a vraiment une grande valeur dans le cinéma, les storyboarders, les concept artistes qui développent les univers en pré-production des films, dans le jeu vidéo, le dessin animé, c'est des économies qui permettent à un dessinateur ou un graphiste, et j'évoque même pas encore la publicité pour les graphistes, c'est des activités qui sont très 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 bien rémunérées, ce qui est complètement paradoxal. La bande dessinée, c'est un métier, comme je le disais tout à l'heure, où on déploie des tonnes de savoir-faire pour une seule œuvre, et où il y a une rémunération qui n'est pas du tout viable. Il y a des gens aujourd'hui qui gagnent très bien leur vie en faisant de la bande dessinée, mais ces gens-là, souvent, il y a quelques cas de jeunes qui démarrent très très fort, très très vite, mais ils sont pas du tout représentatifs de l'ensemble du métier. Et il y a beaucoup de gens qui ont une carrière derrière eux, mais cette carrière, ils ont pu la construire à une époque où cette construction de carrière pouvait se faire. C'est l'époque où il y avait de la presse. Il y a une génération d'auteurs qui dépend d'une époque où commencer une carrière, ça n'est pas reproductible de cette façon-là aujourd'hui. Il n'y a plus de presse. On ne peut plus commencer il n'y a quasiment plus de presse. Il en reste quelques exemplaires, quelques titres, mais c'est pas représentatif. On ne peut pas construire une carrière en étant édité dans le kiosque et pas dans la librairie. On n'est édité que dans la librairie quasiment aujourd'hui quand on commence une carrière BD, et on ne peut pas toucher une rémunération avec ça, c'est quasiment pas possible. Il y a que les gens qu'on nous met en avant, les grands succès et tout, mais ces gens-là sont pas représentatifs et ils donnent une fausse image. La réalité c'est que moi par exemple, pour vous donner des vrais chiffres, quand je fais des planches, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le temps d'un album, ça n'est pas que les planches, c'est le temps de création, le temps de démarchage, le temps de négociation, le temps d'accompagnement et le temps de promotion qui est très important. On n'est pas auteur quand on fait la promotion, on fait de la publicité et on n'a aucune rémunération. Quand je faisais uniquement les planches, je touchais, et c'était des avances, et ça n'est pas une rémunération, c'est une avance sur les fruits de vente. Je m'étais réparti mon avance sur ce temps de travail, ça représentait 700 euros par mois. Je ne suis pas un SMIC, donc l'activité d'auteur pour moi n'est absolument pas rémunératrice, et le pire étant que dans la chronologie de mes projets aujourd'hui, chaque nouveau projet est moins bien, peut-être aussi que je ne suis pas un bon négociateur, mais est moins bien rémunéré que le projet précédent, donc je ne vis absolument pas de ce médium-là. La seule chose que j'envisage, c'est sur le long terme, monter la renommée de mon nom, on va dire, en tant qu'auteur, être plus un argument de confiance pour les éditeurs pour qu'ils s'investissent plus sur les œuvres suivantes, et qu'un jour mes œuvres précédentes soient rééditées et générer un vrai revenu sur le droit d'auteur. Mais c'est un pari, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune certitude là-dessus, et je dois dépendre complètement de, par exemple, ma compagne, d'activités annexes. Donc je travaille dans l'animation et j'utilise le statut de l'intermittence du spectacle pour pouvoir avoir un revenu décent pour le temps de création. Aujourd'hui, les éditeurs, la question pourrait se poser, est-ce que les éditeurs devraient cotiser à l'intermittence du spectacle afin que les auteurs de l'édition et un statut sécurisant pour le temps de création des œuvres, parce que les auteurs de l'audiovisuel, du spectacle vivant, ont ce système-là, et c'est ce qui fait que c'est aussi vivant en France aujourd'hui pour le spectacle vivant, c'est ce système. Le jour où ce système disparaît, il n'y aura plus de spectacle vivant, et aujourd'hui dans l'édition, le monde est en crise parce que les auteurs n'arrivent plus vraiment à en vivre et ils sont obligés de faire d'autres choses. Ils continuent d'être auteurs, et du coup on a l'illusion de croire qu'on peut peut-être vivre en étant auteur, et c'est pas vrai. Enfin, je vais compléter encore parce que c'est assez long à expliquer, mais les activités, par exemple les interventions dans les milieux scolaires sont rémunérées. C'est intéressant culturellement, mais c'est intéressant économiquement pour un auteur. Le marché des planches originales le sont, mais toutes ces sources de revenus, c'est pas une activité d'auteur. On vient en tant qu'auteur, mais ce qu'on fait, c'est de l'animation. Quand on vend des planches, on vend un produit dérivé quelque part. L'activité d'auteur, c'est la source d'activité la moins rémunératrice de quelqu'un qui veut être auteur. Il est obligé d'aller faire d'autres choses pour trouver du revenu. Ou alors il faut être très très rapide, mais le monde culturel ne peut pas se contenter d'auteurs très très rapides, il faut des auteurs lents.
Est-ce que vous faites souvent des rencontres avec votre public ?
Alors jusque-là non, parce que mon activité d'auteur a pas mal changé ces dernières années, puisque je travaillais en studio d'animation au tout début, ce qui fait que j'avais très peu de temps pour ça. Là ça fait un an et demi que je fais de la promotion, et c'est ma première émission radio. J'ai fait des interviews avec la presse, j'ai eu quelques interventions au milieu scolaire. Là j'en ai beaucoup qui vont arriver d'ici la fin de cette année scolaire. manière-là. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est culturellement vachement intéressant, surtout quand le livre, comme ici par exemple dans le bassin stéphanois, est vachement relié au lieu où on vient intervenir. Donc ça parle aux gens au-delà du livre. C'est intéressant, mais économiquement aussi, c'est quelque chose que les auteurs doivent développer pour survivre. Donc c'est quelque chose que je dois être amené, que j'ai aussi envie, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi un moment où les gens montrent un vrai intérêt pour votre livre, parce qu'on travaille pendant des mois tout seul chez soi, on a votre entourage proche qui vous dit c'est bien ce que vous faites, mais c'est pas complètement objectif. Là on a des gens qui ont lu votre livre, qui l'ont aimé, donc c'est très très motivant de rentrer chez soi en se disant on a parlé pendant des heures autour de ces thématiques là, il y a des gens qui s'en soucient, il y a des gens qui se soucient aussi de nos conditions d'auteur, donc on se sent plus très seul, on sent aussi que il y a des gens maintenant qui connaissent un peu notre milieu et qui vont avoir conscience de ça. Ça permet de diffuser ce qu'il y a dans nos œuvres et ce qu'il y a dans notre vie aussi, notre statut, et de diffuser tout ça. Donc c'est quelque chose que je serai fatalement et que j'ai envie aussi d'être amené à faire plus. Ouais.
Pour terminer, est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de vos futurs projets ?
Alors je l'ai un petit peu évoqué, donc là actuellement je travaille avec un scénariste, j'avais envie de travailler avec un scénariste pour justement pas avoir cette frustration d'avoir des envies d'idées scénaristiques qui viennent en même temps que je fais les planches mais que je ne peux plus mettre dedans. C'est aussi un scénariste dont j'aimais beaucoup le travail, notamment le travail des dialogues. Je trouvais ça, c'est quelqu'un qui a un travail sur les dialogues qui est assez léger, qui raccroche à une école qui est plus l'école des dialoguistes de cinéma, type Audiard, les Tontons Flingueurs, tout ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Il s'appelle El Diablo, c'est le créateur des Lascars, entre autres. C'est aussi un monde qui est proche de mon parcours, puisque c'est le dessin animé. Il a fait la même école que moi une dizaine d'années avant. Donc c'est très ancré avec mes goûts. Mais pour les projets suivants, je suis déjà... alors, je ne suis pas en écriture, je suis en train de réfléchir. Donc c'est cette boule de neige que je commence à faire rouler. Je commence à chercher de la documentation et tout sur une prochaine histoire. Donc là, on revient sur les récits fantastiques dans un cadre historique avec des machines. Et là, ça sera plutôt... on revient sur le théâtre de la guerre comme ma première bande dessinée. Mais là, au lieu d'être sur la mer, on sera sur la terre et on sera plutôt sur les chars d'assaut. Voilà. Donc si c'est bien comme ça que ça s'enchaîne, parce que si par exemple la BD sur laquelle je suis actuellement marche bien, ça peut amener tout à fait une suite et je serai assez ouvert si mon éditeur est motivé. Petit appel du pied.
Est-ce qu'il y aurait une suite de Souterrain ?
Alors Souterrain, quand j'ai développé l'univers, j'ai trouvé que l'univers était tellement riche, puis cette notion de créer des mondes souterrains, elle est très libre, donc on peut encore creuser, on peut encore descendre et tout. Donc quand j'ai commencé à écrire, je voulais vraiment être ouvert sur de la suite. En plus, mon contexte au niveau de la surface de la mine, j'avais un terrain qui m'intéressait bien, c'était du coup les mineurs et les industries sous l'occupation après la guerre, puisque là on est dans les années 20-30, on pouvait très bien rebondir sur la Seconde Guerre mondiale, j'avais envie d'ouvrir là-dessus. Puis finalement, par rapport aux grandes thématiques qu'il y avait en dessous, je me sentais pas vraiment de relancer, donc j'ai voulu que mon histoire elle soit complète et qu'elle se termine, mais j'ai laissé une ouverture à la fin et même si aujourd'hui je n'ai pas de matière pour écrire, moi je suis complètement ouvert à ce qu'un jour un scénariste me dise, en me disant mais attends, moi j'ai des super thématiques, et je serais complètement ouvert à retravailler sur cet univers là en tant que dessinateur, ouais. Mais ça n'est pas prévu de mon côté d'écrire une suite.
Merci beaucoup, Monsieur Bodhi, d'avoir accepté de nous rencontrer et d'avoir participé à nos côtés à cette émission.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci à tous les auditeurs de nous écouter. Merci à Radio Oden de nous avoir donné la possibilité de faire cette interview. C'était les élèves du lycée Jacob Holzer en compagnie de Monsieur Romain Bodhi. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Au revoir.